Bonjour à tous. Aujourd'hui, enquête sur un immense gâchis d'argent public. Il y a 3 ans, on nous expliquait que la fusion des régions devait permettre de faire des économies, mais c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Nous allons donc voir ce qui se passe précisément chez un des plus mauvais élèves de France. C'est la région Occitanie. Avec vous, Cécile Hautefeuille. Bonjour.
Bonjour.
Et puis, nous recevrons la médiatrice de Radio France, Emmanuelle Davier. Bonjour également.
Bonjour, Jacques Monin.
Comme chaque mois, vous nous ferez part des doléances de nos auditeurs au sujet des enquêtes de Secrets d'Info. Et avec vous, aujourd'hui, on va reparler de Jean-Luc Mélenchon et de témoins anonymes.
France Inter, Secrets d'Info, Jacques Monin.
Lorsqu'on fusionne de régions, on obtient des économies d'échelle, notamment sur les fonctions support, la logistique, la maintenance, l'informatique, les ressources humaines, les bâtiments. Donc les économies d'échelle seront au rendez-vous à moyen terme.
Voilà, celui que vous venez d'entendre, c'est André Valigny en 2014. Il est alors secrétaire d'État à la réforme territoriale et il explique qu'en diminuant le nombre de régions françaises par 2, on doit pouvoir faire des économies. Sauf que 3 ans après cette réforme, eh bien, on constate que non seulement on n'a pas fait d'économies, mais quasiment partout, on a au contraire augmenté les dépenses. Et une région fait figure de vilain petit canard dans ce tableau, c'est l'Occitanie, où on est passé d'un budget de 2,4 milliards avant la fusion à un budget de près de 3,5 milliards aujourd'hui. Alors à la cellule investigation de Radio France, on a voulu comprendre comment on en est arrivé là. Mais avant de nous raconter les choses assez hallucinantes d'ailleurs que vous avez découvertes, Cécile Hautefeuille, faut peut-être d'abord rappeler tout simplement la région Occitanie, c'est quoi ?
C'est la fusion de 2 régions, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Aujourd'hui, l'Occitanie, c'est près de 6 millions d'habitants dans 13 départements qui s'étendent du littoral méditerranéen au sommet de la Montagne Noire.
Et le siège de cette région, il est à Toulouse.
Oui, mais pour dédommager Montpellier, qui a perdu son statut de capitale régionale avec la fusion, il a été décidé que toutes les sessions plénières auraient lieu là-bas. Les plénières, ce sont des assemblées pendant lesquelles les élus débattent et votent les orientations budgétaires.
Et c'est là que les dépenses commencent à déraper.
Oui, parce que Montpellier a bien un hôtel de région qui a été construit il y a 30 ans. Mais si la fusion a fait baisser le nombre de régions, le nombre des élus n'a en revanche pas du tout diminué. À Montpellier, avant 2016, ils étaient 67. Et aujourd'hui, avec leurs collègues de Midi-Pyrénées, ils sont 158. Mmh. Plus possible donc de les faire rentrer dans l'hémicycle de l'hôtel de région Montpellier-Rhin.
Et comment on fait alors ?
Eh bien, 4 fois par an, on se réunit au parc des expositions en périphérie de Montpellier, sur une route qui mène à la mer. C'est là que se tient la foire de Montpellier, mais aussi parfois des meetings politiques.
Et ça, ça coûte très cher ?
Oui, pour la seule assemblée plénière du 30 juin 2017, on a dépensé 137 170 euros. Sans compter les frais de restauration.
137 000 euros, ça paraît dingue, ça.
Oui, mais même si le parc des expositions est désormais propriété de la région, il faut l'aménager pour les assemblées plénières, explique Anne-Sophie Monestier-Charrier, conseillère régionale de l'Aveyron et élue dans le groupe de l'Union de la droite et du centre.
Tout est monté, effectivement, pour l'assemblée plénière, avec tout ce que ça entraîne, ben, la moquette, les bureaux, la climatisation, l'éclairage. Si on prend, par exemple, sécurité incendie, pour un coût de l'ordre de 2000 euros, les aménagements spécifiques qui comprennent les jupons, les cloisons, il y en a à peu près pour 10 000 euros. On a l'éclairage, éclairage centre de conférence, groupe froid pour climatisation. On a de la climatisation pour chaque pièce qui est mise à notre disposition.
Et ça coûte combien ?
On est à 12 000 euros. Et ça encore pour une seule assemblée plénière, puisque celle du mois de juin dont je dispose de la facture, elle n'a duré que sur un jour.
Ah oui, tout ça pour une seule journée.
Oui, mais il y a pire. Selon des documents comptables que j'ai pu consulter, pour la seule assemblée plénière de juin 2017 au Parc des Expositions, on a facturé 5 jours de montage.
Ouais, 5 jours de montage pour une seule journée de réunion. Et c'est spécifique à Montpellier, ça ?
Apparemment, oui. J'ai contacté toutes les régions. L'Occitanie est la seule à aménager ainsi, jusqu'à la moquette, une salle pour organiser ses plénières. Toutes les autres font leurs assemblées dans des hôtels de région ou dans des locaux déjà équipés pour recevoir ce type d'assemblée.
Mais à Toulouse, il n'y aurait pas un endroit qui pourrait accueillir tout ce monde sans que ça coûte aussi cher ?
Bah si, l'hémicycle toulousain. Il est certes un peu petit, mais en se serrant bien, ça rentre. La preuve, les 2 premières plénières se sont déroulées là-bas en 2016, juste après la fusion.
Bah pourquoi on ne l'utilise pas alors ?
Eh bien d'abord parce que siéger à Montpellier, c'était un engagement de campagne. mais aussi parce qu'il faudrait faire quelques travaux de rénovation et d'agrandissement. À Toulouse, ça coûterait a priori 800 000 euros. Mais cette somme, la présidente de la région ne veut pas l'engager à la légère.
Le président de la République a indiqué qu'il pourrait y avoir une réforme sur la baisse du nombre des élus locaux. Donc je ne vais pas engager des dépenses d'agrandissement pour que dans 3 ans, on me dise que c'est plus 158 élus régionaux, mais c'est 120 quoi. Et ça, quand je l'explique aux gens, ils le comprennent. Ils comprennent que la bonne gestion, c'est pour l'instant de louer et ce n'est certainement pas de construire et d'agrandir.
Donc pour l'instant, c'est le statu quo. Mais il n'y a pas que les plénières qui font augmenter les dépenses, Cécile.
Non, autre gaspillage dénoncé, la consultation citoyenne qu'on a organisée pour désigner le nouveau nom de la région. Rien que ça, ça a coûté 1,5 million d'euros. Oui. Mais il y a aussi d'autres dépenses, les maisons de la région par exemple, implantées sur tout le territoire. Certaines existaient déjà avant la fusion sous forme de maisons de proximité. Aujourd'hui, des maisons de la région, il y en a 11 et elles seront 14 l'année prochaine.
Mais si elles sont utiles ces maisons, en quoi c'est un problème ça ?
Eh bien le problème c'est que certains les voient comme des gadgets. Mais ce que pointe Elisabeth Pouchelon, conseillère régionale de Haute-Garonne pour l'Union de la droite et du centre, c'est que quand bien même elles seraient utiles, on en fait un peu trop avec ces maisons.
La région a décidé de mettre en place des locaux dans chaque département et même plusieurs par département pour en faire une vitrine de la politique régionale. On a par exemple l'acquisition de la maison de région à Perpignan qui va coûter 2 904 600 euros. Donc vous voyez, c'est pas quand même des petites sommes. En location de certaines, elles ne sont pas toutes encore ouvertes. On est à 731 000 et quelques euros de location annuelle de maisons de la région. Donc c'est quand même des sommes importantes. Pourquoi la région ne va pas à l'intérieur d'une autre collectivité pour promouvoir ses politiques régionales plutôt que d'avoir son propre local par volonté d'affichage ?
Donc elle préconise d'abriter ses maisons dans des locaux de mairie ou de département. Mais puisqu'on parle de territoire, Cécile, il faut aussi préciser que par la force des choses, la région elle est devenue beaucoup plus grande qu'avant. Et ça aussi, c'est un problème.
Oui, parce que qui dit territoire fusionné dit plus de déplacements. Cette région Occitanie, elle est très vaste. C'est la deuxième plus grande région de France métropolitaine. Elle est 2 fois plus grande que la Belgique.
Ce qui rend donc les déplacements plus difficiles.
Oui, que ce soit pour se rendre aux assemblées plénières à Montpellier, aux commissions sectorielles ou encore aux commissions permanentes. Elles ont lieu 1 fois par mois, exclusivement à Montpellier. 52 élus de toute la région y participent. Et parfois, ils viennent effectivement de très loin, même pour un temps de travail très court, explique l'élu de l'Aveyron, Anne-Sophie Monestier-Charrier.
Les commissions permanentes, généralement, se tiennent sur 2-3 heures. Donc, ceux qui viennent de Tarbes ou du Lot, ils font 8 heures de route pour siéger. Et pour les commissions sectorielles, c'est pareil, puisque les commissions sectorielles sont sur des durées de 1h30. Et parfois, les commissions durent moins qu'1h30. Donc, on fait des déplacements parfois longs pour la durée de la réunion.
Attendez, Cécile, 8 heures de trajet pour 2 heures de travail, c'est pas un peu exagéré ça?
Non, c'est une réalité, c'est la conséquence de la réforme. Puisqu'on est plus grand, on augmente les trajets, c'est logique. Mais ça a fait exploser les frais de déplacement des élus. Ils ont coûté 646 000 euros en 2017.
Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a inventé un truc pour essayer de les faire baisser ces frais.
On a développé la visioconférence, coût de l'investissement, 600 000 euros. Aujourd'hui, 36 salles sont équipées sur les sites de Toulouse et Montpellier, alors qu'avant la fusion, il n'y en avait quasiment pas.
Et sauf qu'on ne peut pas tout faire par visioconférence.
Bien sûr. Du coup, chaque jour, des agents de la région font les trajets entre Toulouse et Montpellier pour des réunions de travail. Et comme le train est jugé trop long, pas pratique, un système de navette a été mis en service. 2 véhicules de 8 places qui permettent de voyager groupés, explique l'élu Elisabeth Pouchelon.
Alors il y a une navette donc qui part de Montpellier et une autre qui part de Toulouse pour les agents qui nécessitent de se déplacer tous les matins et tous les soirs, sauf le vendredi. Pour les horaires, c'est 7h-19h.
Ce qui fait quand même des journées de travail finalement assez courtes.
Alors la journée de travail elle-même, oui, est courte. La journée totale est longue, mais la journée de travail est courte puisqu'on a en gros aller-retour 5 heures de route.
En 2017, les navettes ont ainsi parcouru 192 000 km, ce qui représente un coût de 180 000 euros par an, bien que ces navettes ne soient pas encore remplies à 100%.
Oui, ce n'est pas tout, parce qu'il n'y a pas que les agents qui se déplacent, Cécile, il y a aussi les syndicalistes.
Oui, pour des CHSCT, des comités techniques paritaires, des négociations. Alors là, on a coupé la poire en deux. La plupart de ces réunions se déroulent à mi-chemin entre Toulouse et Montpellier, dans l'Aude précisément, dans des lycées, propriétés de la région, à Lézignan-Corbières, à Narbonne ou à Carcassonne.
Ouais, donc chacun fait un bout de chemin, mais les transports, ils restent quand même beaucoup plus longs qu'avant.
Bah oui, et d'ailleurs pour ça, la région a accordé aux représentants syndicaux du temps supplémentaire. On leur a aussi alloué des véhicules de service qu'ils n'avaient pas auparavant. Diane Guénaud, co-secrétaire du syndicat Sud, le confirme. Depuis la création de la région Occitanie, elle passe énormément de temps sur la route.
On a une explosion des déplacements. J'ai fait une cinquantaine de réunions l'année dernière, et puis encore pas loin du même nombre cette année. Et il nous arrivait aussi d'être pas très contents parce qu'on nous fait déplacer pour une demi-heure de réunion. Voilà, on est épuisé. Enfin, on est épuisé parce qu'on mange de la route en permanence. On fait du covoiturage entre syndicats, etc. Pour la fatigue et puis parce qu'on veut pas monopoliser les véhicules, etc. En tout cas, en l'Aude, on commence à connaître beaucoup. On y passe notre temps.
Ouais, on passe notre temps dans l'Aude. Et ça coûte combien tout ça?
Bah, rien que le péage de l'autoroute, c'est 21 euros aller-retour entre Montpellier et Lézignan-Corbières. Or, selon des chiffres que nous avons pu consulter, en 2016, le nombre de kilomètres pour les agents aurait augmenté de 78% par rapport à 2015. Sans parler, bien sûr, du bilan carbone, qui, lui, n'a pas été quantifié.
Ouais, et on justifie ça comment, du côté de l'exécutif?
Eh bien, on trouve ça normal que les agents communiquent entre eux. C'est en tout cas ce que m'a expliqué la présidente de la commission des finances, Claire Fita.
On pense que les déplacements, bien en effet, ça fait partie des contingences. On défend une vision aussi de proximité dans la vie de cette nouvelle région Occitanie. Il y a eu aussi de nombreuses réorganisations, donc on a souhaité que les agents se rencontrent, puissent travailler ensemble pour pouvoir harmoniser leurs pratiques.
Ouais, le positif, c'est dépenses, donc la présidente de la commission des finances. En attendant, Cécile, la fusion, elle a aussi fait grimper autre chose. C'est les dépenses de salaire.
Et oui, parce que qui dit fusion dit mise en commun de personnel qui, à compétences égales, n'avait pas les mêmes primes.
C'est-à-dire que certains gagnaient plus que d'autres.
Oui, il y avait plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'euros de différence selon les cas. Il a donc fallu harmoniser ces primes et on l'a fait par le haut.
Donc on a remonté les salaires des moins payés.
C'est ça. Ça coûte quand même près de 5,5 millions d'euros par an. Alors certes, il y a eu une contrepartie, une augmentation du temps de travail. Mais pour Gérard Onesta, le président du bureau de l'Assemblée du Conseil Régional Occitanie, ça a eu des conséquences.
Au lieu de faire des économies, ben ça a coûté. Rendez-vous compte que le statut des agents Languedoc, ex-Languedoc-Roussillon et ex-Midi-Pyrénées n'était pas les mêmes. Et il n'était pas question d'aligner sur celui qui recevait le moins. Vous imaginez ces cas-là, si en plus on se retrouvait avec une grève totale de tous nos agents, déjà que l'entreprise était difficile, là elle devenait impossible. Donc on a forcément aligné par le haut et ça a eu un coût. Un coût qu'il a fallu répercuter sur d'autres économies par ailleurs.
Ah oui, selon Gérard Onesta, ces hausses de salaire auraient eu des conséquences sur d'autres postes. Bon, cela dit, on n'a pas fait que les augmenter, ces salaires, Cécile. On aurait également augmenté le nombre de cadres qui sont employés par la région.
Alors, officiellement, on a réduit le nombre de directions, puisqu'avec la réforme territoriale, on est passé de 44 directions à 30. Mais à l'intérieur même de ces directions, il y aurait en fait plus d'encadrants qu'avant la fusion. En tout cas, pour Diane Guénaud du syndicat Sud, on aurait maintenant une véritable armée mexicaine, alors que la fusion était censée supprimer les doublons.
On s'attendait à des déchirures entre directeurs, ce qu'on avait appelé dans toutes nos communications à nous un Games of Thrones, hein, avec ceux qui gagneraient sur les autres et les éliminer. Ça n'a pas du tout été ça, au contraire. En fait, l'ensemble des encadrants ont été recasés. Alors après, faut revoir les choses. Hein. On était en période de préélection présidentielle. Quand même, une des consignes dans beaucoup de régions, notamment les régions de gauche, c'était qu'il n'y ait pas de remous dans la presse sur comment se passent les réorganisations. Enfin, il n'y a pas de violence. Alors on a vu fleurir des directeurs délégués, des directeurs de projet, des directeurs adjoints, des responsables de service, des responsables d'unité, des responsables de service délégués. C'est pas ce à quoi on s'attendait.
Donc on aurait multiplié le nombre de cadres, mais on a des chiffres qui le démontrent, qui le prouvent, ça?
Eh bien le problème, c'est que non. La présidente Carole Delga m'a assuré que c'était complètement faux, mais sans me donner plus de précisions. Quant aux organigrammes très détaillés, ils restent strictement confidentiels, donc difficile d'aller plus loin pour l'instant.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Alors, on a vu que la nouvelle région Occitanie dépense beaucoup pour organiser ses sessions plénières, que depuis la fusion, multiplie les déplacements et les frais qui vont avec, et que la masse salariale, elle aussi, a augmenté. Mais ce qu'on peut encore observer, Cécile, c'est que la réforme, elle a aussi eu des répercussions au-delà de l'administration régionale, puisque des associations en ont subi le contre-coup.
Oui, je vais vous donner un exemple. Il existe dans la région trois associations qui s'occupent de maternité et de toute petite enfance. Elle regroupe des pédiatres ou des orthophonistes qui s'occupent des femmes enceintes et des nouveau-nés. Et bien, comme la région a fusionné, l'Agence régionale de santé leur demande de faire la même chose.
Donc ces trois associations vont devenir une seule et même structure.
Exactement. Elle doit officiellement voir le jour le 1er janvier prochain. Et après tout, pourquoi pas ? Sauf que rien que pour la préparation de cette fusion, il y aura des dizaines de milliers d'euros de surcoûts. Et Aurélien Jacquot, le futur coprésident de cette structure, nous explique pourquoi.
Quand on additionne tout ce qui est frais de déplacement, salle de réunion, heures supplémentaires, on est déjà aux alentours de 20 000 euros. Sur 2018, c'est quelque chose probablement qui va se chiffrer aux alentours de 25 000 euros, uniquement pour préparer la fusion. Donc c'est l'État qui paye la facture.
L'État qui, au final, déboursera près de 45 000 euros juste pour préparer cette fusion. Mais ensuite, il y aura d'autres frais qui viendront s'ajouter.
Il y a aussi tout ce qui est lié, bien sûr, à l'harmonisation sociale, la convention collective, les niveaux de rémunération qui actuellement sont différents à l'est et à l'ouest de la région. Donc si on prend l'option d'harmoniser, de niveler vers le haut, ce qui semble assez logique au départ, eh bien c'est environ 50 000 euros de surcoût, plus une assurance avec environ 10 000 euros de surcoût. Donc tout ça, effectivement, fait une facture probablement qui n'avait pas été complètement anticipée par nos financeurs. Mais c'était décidé, c'était comme ça.
C'était comme ça, et ça a aussi été comme ça pour d'autres associations, et notamment des associations sportives.
Oui, les ligues régionales sportives ont elles aussi été contraintes de fusionner. On a ainsi créé la ligue de rugby d'Occitanie, de tennis d'Occitanie ou encore de handball d'Occitanie.
Et là aussi, il y a eu des surcoûts ?
Oui, par exemple, pour la ligue de handball, 10 000 euros par an en plus pour que tout le monde soit payé de la même manière. 6 à 7 000 euros de frais de déplacement, rien que pour préparer la fusion.
Mais c'est propre à la région Occitanie, ça, Cécile ? Ou est-ce que c'est la même chose ailleurs ?
C'est pareil, c'est partout la même tendance. En fait, seule l'Île-de-France a vu ses charges de fonctionnement baisser, mais il n'y a pas eu de fusion. En revanche, dans toutes les régions qui ont fusionné, les dépenses de fonctionnement ont augmenté. Bon alors, pour être parfaitement transparent, il faut préciser que c'est aussi lié à des compétences supplémentaires qu'on leur a données et à la gestion des fonds européens. Mais très clairement, on observe le même phénomène. D'ailleurs, la Cour des comptes avait été assez sévère dans son premier bilan de la réforme l'année dernière. Écoutez un extrait de ses conclusions.
Contrairement à l'ambition initiale, cette réforme n'a pas simplifié l'architecture institutionnelle locale. Aucun niveau d'administration n'a été supprimé. L'enchevêtrement des compétences des collectivités demeure une réalité. De surcroît, la Cour engage à la vigilance sur les risques de dépenses liés à l'harmonisation par le haut de certains coûts de gestion en cas de regroupement ou de fusion.
Ouais, donc on a bien regroupé les régions, mais on n'a pas fait le boulot de réduction des doublons qui étaient attendus, c'est ça qu'on entend. Hein. Sans parler de décisions parfois discutables qui ont aussi été prises dans certaines régions.
Oui, par exemple les surcoûts liés à des logos. Dans les Hauts-de-France, le nouvel habillage des trains, estampillé Nouvelle Région, a coûté 10 millions d'euros, dit la Cour des comptes. En Auvergne-Rhône-Alpes, on peut aussi s'interroger sur la pertinence de l'hôtel de région flambant neuf, construit à Clermont-Ferrand pour 80 millions d'euros et qui a été inauguré juste après l'annonce de la fusion avec Rhône-Alpes. Du coup, aujourd'hui, une partie des bureaux sont recyclés et loués à des entreprises ou des associations.
Et c'est pas fini, puisqu'à ça, Cécile, faut encore ajouter les indemnités des élus.
Et oui, parce que comme les régions sont plus grandes, ces indemnités ont parfois aussi augmenté. En Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, le montant de l'indemnité des conseillers régionaux a augmenté de 380 euros par mois.
Bon, mais quand on entend ça, Cécile, on se dit quand même qu'on marche un peu sur la tête, là. On ne pouvait pas prévoir ce qui allait se passer.
Eh bien, pour répondre à cette question, il faut se remettre dans le contexte. Rappelez-vous, cette réforme, François Hollande l'a voulu pour faire des régions françaises qui pourraient peser et en même temps faire des économies d'échelle. Mais cette réforme, elle s'est faite dans l'improvisation et la précipitation, se souvient Gérard Onesta, le président du bureau du Conseil régional Occitanie.
quand l'annonce élyséenne est partie annonçant le nombre de régions, ils avaient oublié de fixer le nombre de régions, tellement jusqu'à la dernière minute, c'était à qui gueulait le plus fort au téléphone pour sauver qui sa Bretagne indépendante, qui son pays de Loire qui n'était rattaché à personne. Le Poitou-Charentes a été marié avec le centre pendant la matinée, racoquiné avec le seul Limousin dans l'après-midi pour se retrouver en concubinage notoire avec l'Aquitaine en soirée. Et tout ça, on nous a dit, bien évidemment, ça s'est fait dans la concertation avec les citoyens. Foutaise. Le miracle, c'est qu'on n'a pas déposé le bilan. On aurait été des entreprises, je pense qu'il y aurait eu de la casse.
Ouais, bon, cela dit, Cécile, faut pas être caricatural non plus. Faut quand même préciser que si les régions dépensent plus, c'est aussi parce que elles dépensent ce que l'État ne dépense plus.
C'est vrai, et un exemple l'illustre très bien. En 2018, le Fonds de soutien au développement économique, une enveloppe qui permettait aux régions d'aider les entreprises à se développer, eh bien ce fonds, il va être supprimé. Mais ça vaut aussi dans d'autres domaines. Ainsi, Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, m'a expliqué qu'elle doit financer des lignes de chemin de fer, alors qu'elle estime que ce n'est pas du tout de sa compétence.
Nous avons par exemple sur la question du train, l'Aubrac, le train qui part de Béziers vers le Massif Central. Nous avons le train de nuit Paris-Cerbère. Eh bien, ces deux trains, ils sont maintenus parce que la région, elle va donner 3,5 millions d'euros de dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire, c'est la région qui va participer. Alors que ça, clairement, c'est une dépense d'État.
Oui, une dépense d'État reprise par la région, donc. Maintenant, quand on met ça bout à bout, Cécile, ça fait quand même beaucoup. Cette spirale qui pousse à toujours plus de dépenses, elle va s'arrêter un jour ?
Alors, j'ai posé la question à l'association Régions de France. On m'a dit oui, les économies d'échelle vont arriver, mais on nous dit aussi pas tout de suite, à long terme. De son côté, le Conseil économique, social et environnemental doit faire un premier bilan de cette réforme l'année prochaine. Mais une source en interne a déjà accepté de me parler en off. Et elle est plutôt sceptique sur les économies qu'on pourrait voir venir. Écoutez ces propos que nous avons fait lire par une journaliste.
Personnellement, je suis très réservée. Ces fusions génèrent des surcoûts, mais pas de réelles économies. En tout cas, pas pour le moment. On nous promet des économies d'échelle, mais ça reste à prouver. À court terme, s'il devait y avoir des économies sur l'immobilier ou la logistique, ça aurait déjà dû être fait. Enfin, ce qui est très inquiétant depuis la naissance de ces grandes régions, c'est que partout, la proximité s'éloigne, il y a un vrai sentiment de délaissement des populations, et ça interroge.
Et à cela s'ajoutent des rivalités entre les différents sites administratifs, ce qui ne contribue pas du tout à faciliter l'harmonisation des politiques régionales.
Bon, mais alors comment faire, Cécile ? C'est quoi la solution ?
Aujourd'hui, il y a deux pistes qui sont avancées. La première, que personne n'assume encore ouvertement, c'est de faire comme dans la fonction publique, réduire les effectifs en ne remplaçant plus les départs en retraite. Mais Gérard Onesta, le président du bureau de la région Occitanie, lui, en fait une autre. Il suggère de faire une deuxième réforme.
Si économie il y a, c'est dans une remise en cause complète, une remise à plat complète de la République des territoires. Je pose la question, et je ne ferai pas que des copains en la posant, mais est-ce que les conseils départementaux qui ont vocation essentielle à distribuer les aides sociales, je ne dis pas à les voter, parce que ce n'est pas eux qui fixent le taux des RSA, à distribuer, ont vraiment une vocation à être encore plus de 200 ans après leur création. Pour distribuer des aides sociales, une très bonne administration peut suffire. Donc il y aurait certainement un redéploiement à faire, et là, ah là, pour le coup, on pourrait faire de substantielles économies.
De substantielles économies. Mais ça veut dire aussi, finalement, demander aux départements de faire le boulot que les régions n'ont pas fait.
C'est pas faux, on se refile clairement la patate chaude. Mais le constat, il est aujourd'hui cruel. On a créé des régions moins nombreuses, mais qui coûtent plus cher qu'avant et qui n'ont pas acquis la puissance qui pourrait leur permettre de peser dans le concert européen. Si l'on rajoute à ça des décisions clientélistes et une baisse des dotations de l'État, on peut redouter qu'une gestion raisonnable des deniers publics ne soit pas encore à l'ordre du jour.
Bien, ben merci Cécile Hautefeuille, même si c'est un peu déprimant ce que vous venez de nous dire. Merci pour cette enquête sur les dérives de cette réforme des régions. Alors je précise qu'on peut la réécouter, votre enquête, ou la podcaster sur franceinter.fr. Vous pouvez aussi nous faire part de vos commentaires sur le même site franceinter.fr, mais aussi sur la page Facebook de Secrets d'Info ou sur Twitter Investigation RF. Allez, restez avec nous dans quelques instants. Nous accueillerons la médiatrice de Radio France, l'occasion de répondre aux critiques que vous, auditeurs, vous nous avez adressées sur Secret d'Info. You feel my anger radiate. My brutality disseminate. Still feels empty around me.
But now I can bear the vacancy. I am in danger to be the danger, the quiet anger, the troubles water. Smile on my face, I'm going under. Fear radiates, lights up a fire. You feel my anger radiate. My brutality disseminate. Still feels empty around me. But now I can bear the vacancy. If you rise with the sun, we will rise together. Battle's only just begun and I'm going under. If you rise with the sun, we will go together. Dragging myself down so deep and low, so red. But I know from the radio the world's changed all around. And I am in danger to be the danger, the quiet anger that troubles water. Smile on my face, I'm going under. Fear radiates, lights up a fire. You feel my anger.
Magnifique cette voix, hein, sensuelle, inspirée, profonde, sur un son moelleux et synthétique. C'était Radiate, cet extrait du dernier album de la Française Jeanne Adède.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Alors, nous recevons, comme chaque mois maintenant, la médiatrice de Radio France, Emmanuelle Davier, bonjour.
Bonjour Jacques.
L'occasion pour nous de voir ce que pensent les auditeurs de Secret d'Info et de répondre donc à vos critiques sur les enquêtes que nous avons diffusées. Alors, pour le mois d'octobre, Emmanuelle, qu'est-ce que vous avez retenu?
Sans surprise, c'est la diffusion de votre enquête hein, sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon et la société Mediascope dirigée par Sophia Chikirou qui a provoqué de très vives critiques, des contestations sur le sujet même de l'enquête et des suspicions d'entente entre le pouvoir et Radio France. Alors, les auditeurs ont énormément écrit, il n'y a aucun doute, et nous avons déjà traité un certain nombre de questions avec Sylvain Tronchet, qui est l'auteur de l'enquête, et Benoît Colombat de la cellule investigation, donc de Radio France, et ils ont répondu de manière factuelle aux questions relevant de l'enquête. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à écouter ou à réécouter leurs interventions sur la page du rendez-vous de la médiatrice de France Inter. Mais au sujet de cette enquête, je voudrais cependant, Jacques Monin, revenir avec vous aujourd'hui sur trois points. Le premier, c'est la complicité supposée entre le pouvoir et Radio France. Et la preuve de cela, selon des auditeurs, c'est la concomitance entre les perquisitions et la publication de l'enquête, comme s'il y avait une opération concertée avec la Macronie.
Bon, alors au risque de me répéter, c'est juste faux. Je suis désolé, mais c'est comme ça. L'enquête était programmée de longue date. Benoît l'a expliqué la semaine dernière. On l'a déjà expliqué plusieurs fois. D'ailleurs, on peut renvoyer aussi au texte qui a été écrit par Sylvain Tronchet, qui se trouve sur le site de France Inter et qui répond de manière circonstanciée. Mais au-delà de ça, en quoi ce serait un problème? Quand on enquête sur l'affaire libyenne, par exemple, qui met en cause Nicolas Sarkozy, est-ce qu'on nous reproche de diffuser des informations sur où en est l'enquête? Quand on enquête sur l'affaire Fillon, par exemple, ce qui était le cas pendant les présidentielles, alors que lui-même est inquiété par la justice, est-ce que les mêmes qui nous le reprochent aujourd'hui viennent nous en faire le grief? Ben, je pense pas. Je pense que enquêter sur une affaire judiciaire qui met en cause un homme politique, des financements publics, des remboursements de frais de campagne, etc., bah, c'est d'intérêt public. Alors, ce télescopage, il est bienvenu, parce que qu'est-ce qu'on a eu dans cette affaire, avant nos révélations? On a eu du bruit, on a eu de la fureur, on a eu de l'écume cette semaine-là, on a eu une perquisition en direct sur Facebook, des réactions outragées, des accusations sur le pouvoir, la justice, la presse, des propos outranciers, mais personne ne savait au fond pourquoi ces perquisitions avaient lieu. Alors que quelques jours après, nous, on puisse éclairer avec des faits ce qui est en train de se passer, je ne vois pas ce que ça a de scandaleux ou ce que ça a de problématique. Alors ensuite, la Macronie, le complot, le pouvoir, la radio d'État, là aussi on l'a expliqué maintes fois. Bon, on est à l'origine aussi de certaines révélations sur les ristournes dont avait bénéficié Emmanuel Macron pendant la campagne. Et je me souviens qu'à cette époque-là, Jean-Luc Mélenchon faisait référence à notre enquête justement pour dire « regardez ce qui se passe ». Mais je pense que tout auditeur de bonne foi, de secret, d'info, sait que cette accusation n'a pas de sens.
Autre question qui revient à plusieurs reprises dans les mails, est-il vrai, comme l'indique Mediapart, que Sophia Chikirou entretiendrait une relation extra-conjugale avec Jean-Luc Mélenchon ? Si c'est exact, l'enquête prendrait-elle une autre tournure, demande Cyril.
Bon alors attention, nous n'avons rien affirmé à ce sujet. Bon, cela dit, je ne vais pas non plus esquiver la question puisque des auditeurs se la posent et donc vous nous la relayez. Ce qu'on peut dire, c'est que nous, ce que nous avons considéré, c'est que cet élément pourrait avoir un sens, mais dans un deuxième temps, je m'explique, si demain par exemple, il y avait une vérité judiciaire sur cette affaire. Alors là, effectivement, pourrait se poser la question de la relation de Sophia Chikirou avec Jean-Luc Mélenchon, parce qu'elle pourrait donner un éclairage nouveau à l'affaire. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, effectivement, une information d'ordre privé peut devenir d'intérêt public. Si, par exemple, je ne sais pas, si un candidat, quel qu'il soit, hein, d'un parti en vue à la présidentielle, confié pour plus d'un million d'euros de marché à son épouse ou à sa compagne, qu'est-ce qu'on en penserait ? Est-ce que le prisme de l'affaire ne changerait pas ? Donc, c'est une vraie question. Mais, encore une fois, à ce stade, on a considéré qu'on n'en était pas là. Il y a une simple enquête préliminaire, personne n'a été mis en examen, aucune information judiciaire n'a été ouverte, donc nous avons préféré nous en tenir à éclairer le pourquoi de l'enquête. Maintenant, ce qu'on peut ajouter, Emmanuel, c'est que Mediapart, il faut le préciser aussi, avait une information dont nous ne nous disposions pas, c'est le fait qu'au domicile de Jean-Luc Mélenchon, les policiers ont trouvé Sophia Chikirou chez lui. Et c'est sans doute la connaissance de ce fait précis qui a convaincu nos confrères d'en faire état, ce que nous avons préféré ne pas faire.
Sur la forme du reportage, Pierre, un auditeur, se dit troublé par l'utilisation de plus en plus fréquente de témoignages anonymes. Je le cite, « Cette pratique rappelle les délations anonymes dans tous les domaines, tenez par exemple pendant la guerre ou à la libération. En termes de déontologie journalistique, la pratique de ces pseudo-témoignages théâtralisés à l'antenne est très malsaine. » Que répondez-vous à Pierre ?
Ouais, il faut pas tout confondre. Les témoignages anonymes que nous faisons effectivement parfois lire à l'antenne n'ont rien à voir avec des lettres de dénonciation anonymes auxquelles on fait référence ici. Enfin, rien à voir avec, pardon, mais les mots de collaboration sont déplacés. Nous savons qui parle. Pour notre équipe, pour la cellule d'investigation, ces voix, elles ont un visage, elles ont un nom, elles ont un titre, un statut, une légitimité. Et vous pouvez aisément comprendre que beaucoup d'interlocuteurs ne veulent pas et ne peuvent pas parler à visage découvert. Il suffit de prendre quelques exemples. Lorsque vous avez été victime d'un prêtre pédophile, vous n'avez pas forcément envie de vous découvrir et que votre entourage le sache. Lorsque vous êtes cadre dans une multinationale qui est très puissante et que vous dénoncez un certain nombre de ses agissements, si vous le faites à visage découvert, vous perdez votre travail. Enfin, il suffit de regarder l'historique des précédents lanceurs d'alerte. Ils ont tous perdu leur boulot quand ils sont pas partis en dépression. Ça a été terrible pour eux. Et même dans l'entourage de Jean-Luc Mélenchon, dans l'entourage de certains hommes politiques, il y a des voix qui, en privé, vous disent des choses, donc vous donnent des informations, mais qui, évidemment, ne le diront jamais au micro parce que sinon, elles s'exposent à des représailles. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là ? On fait comme si ça n'existait pas ? On vous fait croire qu'il n'y a pas de pédophilie dans l'église, que la multinationale dont on parle est parfaitement vertueuse, que tout va bien dans l'entourage de Jean-Luc Mélenchon, que personne n'a de critique à lui formuler. Faire ça, ce serait ne pas vous informer. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ce que fait tout bon journaliste, c'est-à-dire qu'on protège nos sources, on les abrite effectivement derrière une forme d'anonymat, mais après s'être assuré de leur crédibilité, ce qui vous permet d'avoir accès aux informations qu'on considère comme étant les plus justes possibles.
Pour finir, une autre enquête diffusée samedi dernier, « Pédophilie dans l'église, les raisons de l'omerta », signée Laetitia Chérel. Michel a écouté ce reportage et observe, je le cite, qu'il est fréquent qu'un ou une journaliste parle de l'église, s'agissant des catholiques, comme si cette église était la seule en France. Pire, à Secret d'Info, il a été mentionné « Église de France ». La répétition de cette expression sur votre antenne est en contradiction avec l'histoire, la loi et la sociologie française, à moins qu'Emmanuel Macron n'ait signé en douce un concordat lors de sa visite à Latran.
Non, je vous rassure, il n'a pas signé de concordat. Bon, là, je vais passer la parole à Laetitia Chiral, puisque c'est vous, Laetitia, qui aviez réalisé cette enquête. Bonjour d'abord.
Bonjour.
Alors, l'Église, oui, c'est vrai, effectivement, c'est un raccourci, non ?
Oui. Dire l'Église, s'agissant des catholiques comme si c'était la seule en France, bien sûr, c'est un raccourci. Michel a raison. Hein. Il y a d'autres églises en France, hein, l'église orthodoxe, l'église protestante. Mais enfin, dans une enquête de 25 minutes, une fois qu'on a posé le sujet, en début d'enquête, comme on l'a fait en parlant de l'église catholique, c'est vrai qu'on peut peut-être parfois avoir recours à des raccourcis en parlant de l'église avec un grand E pour désigner l'institution, pour éviter de se répéter. Quant à la formule église de France, c'est plutôt l'église en France, alors que Michel se rassure, hein, on ne va pas s'en prendre à la loi de séparation de l'Église et de l'État.
On en reste là, Emmanuel ?
C'est tout pour aujourd'hui.
Bien, merci Emmanuel Davier. On se retrouve donc fin novembre pour le prochain rendez-vous de la médiatrice. C'est la fin de Secret d'Info. Merci à Martin Broyer pour sa précieuse collaboration. Merci à Christophe Imbert, notre réalisateur. Merci à Anne-Laure Cochet et à Serge Viguier qui étaient à la technique aujourd'hui. Merci aussi à Jean-Baptiste Audibert qui lui assurait notre programmation musicale. Dans quelques instants, c'est Denis Chessou avec CO2 Mon Amour qui va vous emmener sur la route du rhum. Quant à moi, au nom de la cellule investigation de Radio France, eh bien, je vous souhaite un excellent week-end.